la CBC à Don Cherry.
Bonjour, Mala B. Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Monsieur Lavigne, bonsoir.
Bonsoir, dame.
Comment ça va?
Très bien, merci, toi-même.
Oui, est-ce que vous tombez à votre chaise à chaque soir de série parce que vous dites, ben voyons donc, c'est pas vrai, c'est pas les autres qui ont gagné?
Non, mais c'est surprenant. Je pense qu'on regardera pas nos prédictions parce qu'on est pas mal qui était dans le champ. Là. C'est que c'est une année assez bizarre de voir tout ce qui se passe cette année. Mais...
Comment t'expliques ça, Éric?
Comment j'explique ça? C'est difficile à expliquer dans le sens que, oui, on parle de parité. Oui, on parle que la saison a été quand même très serrée, mais au bout de la ligne, j'ai de la misère à m'expliquer comment les clubs favoris ont pu s'effondrer de la sorte cette année. C'est difficile à expliquer, mais j'ai trouvé que ça n'a pas été des séries où les gardiens ont été extraordinaires. En comparé à d'autres années où tu voyais les gardiens fermer la porte, je trouve que les équipes clés n'ont pas réussi justement à fermer le jeu, puis il y a des équipes qui se sont basées un petit peu trop sur leur talent.
En même temps que je t'entends dire que les gardiens ont été ordinaires, moi, je tournerais ça de l'autre bord, si tu me permets. Puis je te dirais qu'on a vu plus d'attaques en série cette année. Puis ça, c'est peut-être une nouvelle tendance, non?
Plus d'attaques, oui et non. Plus d'attaques, je trouve, à cause de beaucoup d'erreurs défensives. C'est okay. Ça qui est okay. Souvent, hein, dans les séries éliminatoires, tu vois du hockey très fermé où les équipes font pas trop d'erreurs. J'ai vu beaucoup de revirements. J'ai jamais autant vu de surnombre que dans cette première ronde-là.
Okay.
J'ai vu des 2-1, 3-1. C'était assez surprenant. C'est comme si, à un moment donné, les clubs se sont pas assis sur leur système de jeu et essayé de fermer le jeu à outrance. C'est une saison où on a joué avec beaucoup plus d'attaques. Hein. Cette année, c'est marqué plus de buts.
Oui.
C'est comme si on avait relâché un petit peu sur le système de jeu en série. Puis c'est ça qui a été ma grande surprise. Mais c'était surtout de voir le nombre d'erreurs qu'il y a eu qui a mené à des buts.
Est-ce que la tendance des équipes favorites qui viennent de s'incliner à peu près toutes en première ronde, est-ce que ça va avoir une incidence où l'an prochain, dans les deux dernières semaines du calendrier, les équipes qui sont déjà qualifiées pour les séries vont lever le pied?
C'est deux façons qu'on peut le voir. Moi, je pense que les équipes vont comprendre que rapidement, ils doivent se classer pour les séries pour justement faire ce que tu viens de demander, d'être capable de se reposer un peu. Mais il va falloir que les équipes aient un bon début de saison parce que la parité est tellement là en termes... Il n'y a pas assez d'équipes dans les séries présentement, ce qui fait que tu pourras pas avoir une mauvaise passe. C'est que les équipes vont essayer de mettre des points en banque très, très vite pour pas être dans une course folle à la fin parce qu'on voit que si tu dépends trop des autres clubs, tu es dans le trouble. C'est que les clubs vont essayer d'avoir un départ canon, à mon avis, pour éviter là, justement d'être dans un sprint final endiablé.
OK. Les Blue Jackets de Columbus reprennent l'action ce soir. Leur dernier match remonte au 16 avril. Est-ce qu'ils vont être rouillés?
Ils vont être rouillés en termes de synchronisme, sauf que Tortorella est reconnu pour un gars qui a des bons entraînements. C'est que je pense que c'est plus en termes de synchronisme qu'on va voir la différence. De l'autre côté, on va se dire, Boston, peux-tu être fatigué parce qu'ils sont allés en 7 matchs? À ce temps-ci de l'année, sur le long terme, ça fera pas mal. Peut-être qu'au début, en première période, mais c'est pas un élément qui, d'après moi, va faire la différence. C'est peut-être au contraire qu'au bout de la ligne, plus la série va s'étirer, plus ils peuvent être dans le trouble. Ils vont être désavantagés si c'est une courte série, mais si la série est longue, je pense qu'ils vont reprendre le dessus.
OK. S'ils perdent le match de ce soir, on pourra pas expliquer la défaite contre Boston en disant « ça faisait 10 jours qu'ils n'avaient pas joué ».
Non, 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 plus aujourd'hui. Là, les gars pratiquent, les gars sont en forme. C'est sûr que, oui, c'est pas le scénario idéal, mais d'un autre côté, tu vas te dire que l'autre équipe, c'est pas le scénario idéal d'avoir joué ces matchs. Si tu affrontes un club qui a eu 2-3 jours de plus de congés que toi, je pense que ça paraît. Là, il y a un club qui va rentrer avec le momentum. L'autre équipe va être un peu rouillée, mais ça devrait se rééquilibrer au bout de la ligne. Là.
OK, à l'inverse des équipes qui ont joué 7 matchs, Éric, faut noter d'ailleurs que les 3 gagnants des matchs numéro 7, San Jose, Boston et Caroline, les 3 tiraient de l'arrière 3-2 après 5 matchs. Là-dessus, je prends San Jose et Caroline. Je laisse Boston de côté, on les connaît bien. Je prends San Jose et Caroline, Éric. 2 équipes qui ont gagné en 7. Est-ce que tu aimes mieux une équipe expérimentée comme les Sharks, dans la mesure où Joe Pavelski va pouvoir revenir au jeu, une équipe qui a de l'expérience, avec des vétérans, ou t'as mieux des jeunes fringants comme la Caroline qui sont pas trop conscients de ce qui leur arrive?
Ben, ils sont pas trop complets. Je prendrais le club de vétérans parce que le club que, comme Caroline, le vrai danger, c'est de se poser la question, ils vont-tu penser qu'ils ont déjà réalisé l'exploit?
Okay.
Sauf qu'ils sont embourbés un peu. Ils sont pris d'une spirale un peu comme l'an passé, Vegas. Là, personne ne les voyait là. Puis là, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait hier, là. C'est surtout la prolongation qui m'a assommé de voir à quel point ils ont dominé Washington
ont
dans
mangé,
les deux minutes de prolongation.
Ouais, ouais.
Mais j'ai bien peur que le niveau d'émotion baisse d'une coche. Là. C'est ça qui va être qui peut être risqué, mais ils sont surprenants. Ça n'a aucun bon sens. Là, hier, à 2-0, à 3-1, jamais j'aurais osé gager qu'ils reviendraient dans le match. Mais il se passe de quoi dans cette équipe-là? L'an passé, c'était Vegas comme club d'expansion. Cette année, c'est Caroline avec ce qu'il faisait comme cérémonie à la fin des matchs. Il s'est créé un buzz qui est difficile à arrêter. Mais là, honnêtement, là, ils viennent de me jeter à terre en allant gagner hier un septième match. D'autant plus qu'ils avaient perdu les trois premiers sur la route et réussissent à revenir. C'est que c'était assez impressionnant.
OK. Les Blues contre les Stars, c'est une série qui m'intéresse encore autant que la première ronde entre les Blues et les Jets. C'est deux équipes qu'on connaît un peu moins. Bishop, tantôt t'as dit, en première ronde, les gardiens n'ont pas fait l'ouvrage. Mais Bishop et Bennington ont probablement été les deux meilleurs de la première ronde.
Moi, je dis pas que les gardiens n'ont pas fait l'ouvrage. Je dis que les gardiens ont moins fait la différence.
OK.
Et là, c'est deux gardiens qui ont très bien fait. C'est que ça va être un duel intéressant, mais c'est deux clubs énigmatiques dans le sens que Saint-Louis a tellement eu une première moitié de saison ordinaire, ils ont même été obligés de changer d'entraîneur. Dallas, on n'était pas certain qu'ils réussiraient à faire les séries non plus. C'est une série qui est intéressante parce qu'elle pique la curiosité, mais c'est pas une série qui est trop sexy comme ben d'autres séries d'ailleurs. Là. Monsieur Bettman ne doit pas être trop de bonne humeur un matin là, quand il a vu c'était quoi les duels. Parce que c'est pas ce qui... Le maniaque de hockey va aimer ça, mais c'est pas des matchs où tu dis faut absolument que j'aille l'écouter. Mais ces deux clubs-là piquent notre curiosité parce qu'ils ont été, surtout en deuxième moitié de saison, très, très bons.
Ouais, puis là, tu parles de Saint-Louis-Dallas, puis Will, dans l'oreille, il me dit « Islanders, Caroline, ça prend un bon vendeur de chars usagés, hein? »
On est encore dans le pas mal moins sexy. Là. Il y a du pyjama de flanellette là-dedans. Là, c'est, c'est sûr que c'est pas trop vendeur, sauf les maniaques d'hockey puis les partisans de la place.
T'sais, on a beau aimer le hockey, Eric, là, mais la game 3 à Islanders Caroline, elle va être tough à vendre à nos blondes. Là.
T'as absolument raison. Puis tu pourras pas créer un gros happening dans ton sous-sol en disant j'invite une gang de chums puis on sort les ailes de poulet. Là. C'est pas... À moins d'avoir un match 7 où là, ça va lever parce qu'un match 7, peu importe les équipes qui s'affrontent, t'as le goût de l'écouter. Mais pour le reste, là, c'est pas. Disons que c'est pas le scénario souhaité par la Ligue nationale cette année. Là.
Mais s'il y a des gens à l'écoute dont la blonde subit un peu moins le hockey, là, dites-leur que c'est Pittsburgh qu'on ne t'aime pas quand ça va être Caroline à Islanders.
Ouais, ils vont être déçus, mais ils voient les couleurs des chandails. C'est ça, faut que tu fasses attention.
Je me souviens, il y a deux semaines, tu m'as dit. Dan, parce que moi, j'arrêtais pas de dire depuis un mois, puis je les avais d'ailleurs pris, pour être sûr d'être 0-8, mais j'avais pris Toronto pour battre Boston. Puis tu m'as dit, Dan, si les Leafs s'inclinent, on remettra pas en question les compétences de Mike Babcock, mais on va remettre en question ses relations avec ses joueurs. Et ça, ça m'a marqué quand tu m'as dit ça il y a deux semaines. Puis je trouve que ça jette une tache au dossier de Babcock.
Jette une tâche, puis je suis pas sûr si j'ai bien vu les manchettes, là, parce que j'ai eu une journée de fou au bureau, là. J'ai-tu bien vu que son gérant a pas voulu le reconfirmer aujourd'hui, puis qu'il a déclaré qu'il y penserait, là. Je sais pas comment ça a sorti, là, mais je pense qu'il va avoir une mise au point qui va être faite, puis ça, c'est ce qui va un petit peu mettre un bombe sur ça, c'est que Matthews a bien fonctionné. Et beaucoup de monde avait hâte de voir si Matthews performerait dans les séries, puis Matthews a eu de la glace. Mais au-delà de ça, pour la première fois, là, on se questionne vraiment. Demain matin, Babcock perd sa job, et c'est pas tout le monde qui tombe en bas de leur chaise, puis il y a des gens qui vont dire ça s'explique. C'est la première fois qu'on met en cause le fait qu'est-ce qui est sans reproche. Et l'an passé, il y a des gens qui disaient, ouais, avec Matthews, mais quand même, il y avait peut-être raison d'essayer de casser Matthews. Là, cette année, tu as revécu le même scénario. Tu as l'addition de Tavares, l'addition d'un défenseur à fin de Manzan en fin d'année. Plus trop d'excuses, là, puis tout le monde s'attendait à qu'il puisse faire la différence. Ça n'a pas été fait. C'est la première fois qu'il est re-questionné et qu'à un point tel que le monde se demande s'il va revenir.
Il y a à peu près 3 semaines, il a remis en question un peu le système de Toronto en vantant, en louangeant le système du Lightning. Souviens-toi, il a dit, eux autres à Tampa Bay, ils repêchent bien, ils développent bien, puis sont capables de garder tous les joueurs à l'intérieur du plafond salarial. Ça, c'est un jab direct à Kyle Dubas, le DG de 33 ans. Là.
Oui, puis il a lancé une coupe de jab cette année. Là. Il a parlé beaucoup. Hein. Parler beaucoup, c'est pas grave. Mais il faut que tu, à un moment donné, quand tu parles beaucoup, t'es remis en cause dans ce que tu dis. C'est un peu ce qu'il a fait. Puis c'est pas la seule fois qu'il remet en cause son gérant. Il a même parlé de son ancien gérant. Ce qui fait que c'est pour ça que je pense que oui, ça peut être tendu avec les joueurs. Mais je me demande si ça devient pas un peu tendu avec la direction aussi.
Est-ce que Mike Babcock est en train de se prendre pour plus gros que la profession?
Je dirais pas ça parce que, ben, ta question est très bonne. Sauf qu'il a le droit de dire, quand il voit son chèque de paye aux 2 semaines, de dire, ils m'ont donné le salaire pour ça. Je mérite tout ça, mais...
Ils l'ont payé pour gagner aussi.
Oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est que peu importe le salaire que tu gagnes, il faut que tu gagnes, justement. C'est que c'est... Quand on commence à spéculer sur le fait que t'es-tu trop payé, mais là, il y a des interrogations, puis ça veut souvent dire que ça grenouille à l'intérieur de l'équipe. Là.
OK. Est-ce que les joueurs qui refusent d'aller au championnat du monde, ça t'agace?
Moi, j'ai jamais été un grand fan de ce championnat-là. Là. C'est juste qu'il faut établir les règles. Es-tu obligé à moins d'une blessure? Ou on donne-tu? C'est pas... tournoi social, ça, là. Là. C'est... Je trouve cette valeur. Tu sais, les gars arrivent là avec leurs femmes et les enfants. Puis, j'ai rien contre les femmes et les enfants. Au contraire, sauf que c'est pas un tournoi d'une excessive envergure. Là, parce que c'est un tournoi qui compte beaucoup pour les équipes européennes. Mais au Canada, il y a tellement de joueurs. Je pense qu'à pareille date, je t'ai fait le même commentaire l'an passé, si je me trompe pas. C'est un tournoi avec les gars ont le choix d'y aller. C'est malheureusement le tournoi des perdants. C'est qui fait en sorte que moi, c'est pas un tournoi qui m'excite trop. Puis de plus en plus, on voit de joueurs refuser d'y aller. C'est que c'est pas, ça donne encore moins de valeur à ce championnat-là. Puis c'est. Okay. Ce n'est pas un tournoi qui va faire la grosse différence. Là.
OK. Un auditeur, pendant qu'on jasait tantôt, a dit Michel Therrien a la réputation, je ne sais pas si c'est vrai, tu le connais mieux que moi, tu as dirigé avec lui, a la réputation d'être bon avec les jeunes joueurs. Est-ce que lui pourrait être une alternative pour diriger les Leafs si jamais Babcock est congédié?
Mais Toronto, c'est un mélange. Là. Mike, il faut qu'il arrive. Souvent, il va arriver d'une organisation qu'il faut remettre de l'ordre. Toronto, c'est pas un club qui n'est pas en ordre. Là. C'est un club qui a du talent. C'est un club... Moi, je pense qu'à Toronto, ça va prendre un entraîneur qui va être assez proche de ses joueurs, qui va être un coach-player pour redonner un petit peu de liberté, parce qu'on sait que Babcock est très, très intransigeant. Mike est très intransigeant. Moi, je pense que Mike serait parfait pour aller remettre un club comme Minnesota sur la traque. Parce que c'est un club que... Mike est excellent quand il arrive dans un club où c'est un petit peu un country club, puis il faut que tu remettes de l'ordre dans Baptiste.
OK, je comprends.
À Toronto, c'est un club qui est quand même bien rodé avec beaucoup de joueurs de talent. C'est que je pense que ça va prendre un coach quand même, si jamais le coach part, là, parce que je pense pas qu'il est encore parti, mais ça prend un gars qui va se rapprocher des joueurs un petit peu, à mon avis. Là.
Parfait, gros merci, Eric. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan.
Salut bien, Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match. Juste avant d'aller à la pause, je veux vous dire qu'Eric Furlatt et Dan O'Halloran, les deux gars qui étaient d'office pour le match à San Jose. Ça, c'est la réaction en direct du vestiaire des Golden Knights qu'on vient d'entendre. Ben, les deux gars qui ont donné 5 minutes à Cody Eakin, on connaît la suite, San Jose l'emportant en prolongation. Ben, Eric Furlatt et Dan O'Halloran ne seront pas de la deuxième ronde. Par contre, on applaudit la décision de la Ligue nationale. Johnny Murray, un gars qu'on connaît bien, à qui je parle régulièrement dans l'avant-match, un gars de Québec qui vit en Floride maintenant, lui sera juge de ligne pour la deuxième ronde.